Bonjour à tous. Comme un mardi, info ou un tox, la France est-elle un grand pays d'accueil? L'économiste a collecté et croisé les données les plus récentes pour un état des lieux déroutant sur l'immigration en France, mythes et réalités. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage, publié chez Fayard, un spécialiste des migrations internationales. Voilà ce qu'il est. El Mouhoub Mouhoud revient sur cette question, celle des mensonges qui noyautent la pensée et redonnent des bases statistiquement saines à un débat souvent biaisé. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, absurde ou cohérent, voisin séduisant sur les planches, baroudeur mythomane à l'écran, il tient le premier rôle dans la troisième saison d'une des séries phares de Canal, création originale Kabul Kitchen, ou les péripéties d'un groupe d'expatriés en Afghanistan. Auteur de Voyage puis Retour en Absurdie, le belge Stéphane de Groot est notre invité jusqu'à 12h30 sur France Culture, tout de suite.
La grande table. Olivia Gesbert.
Comédien, auteur de Voyage en Absurdie et de Retour en Absurdie chez Plon, le livre de la jungle aussi. Les trois réunis se sont vendus à plus de 600 000 exemplaires. Ancien chroniqueur télé, acteur de séries, de cinéma et de théâtre, le belge Stéphane de Groot est aujourd'hui à l'affiche de la troisième saison de Kabul Kitchen qui a démarré hier sur Canal. Il est Michel Collincourt, gentil expat, escroc et mytho. Au théâtre, il est Thomas, partenaire de Bérénice Béjot dans Tout ce que vous voulez de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Mise en scène par Bernard Murat au théâtre Édouard VII. Deux soirs encore. On le verra enfin au cinéma dans Chacun sa vie de Claude Lelouch à la mi-mars aux côtés de l'avocat Éric Dupont-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès, Jean Dujardin ou encore Christophe Lambert. Ça en fait du beau monde. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Annoncé sur France Culture il y a 2 ans. On vous attend toujours. On n'était pas assez bien pour vous?
Je vais venir.
Ben oui.
On a du temps.
Regardez, c'est bien non ici?
Oui.
Bon, ben voilà. Fallait crever l'abcès, qu'est-ce qui s'est passé?
Rien, j'ai été rattrapé par le théâtre, par le cinéma, par d'autres projets. Je suis un boulimique moi, et du coup, dès qu'on me propose un buffet avec des bonnes choses, je ne peux pas m'empêcher d'y aller. Alors, disons que France Culture, ça sera le dessert.
C'est bon ici, hein, vous savez.
On est bien là.
Oui, puis alors nous, vous y voyez bien dans ce rôle de l'humoriste intello. Ça vous va pas mal. Vous aimez bien jouer avec les mots. Ça aurait pu coller, vous pensez, entre
Il y avait une idée qui pointait et qui est toujours là. Qui est toujours, je suis animé par des envies. Et c'est une envie. Donc ça me maintient en vie, tout ça. C'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire que j'ai l'impression de devoir pédaler tout le temps. Parce que si j'arrête de pédaler, je tombe. Et donc un jour, je viendrai garer mon vélo chez vous.
Vous allez voir, la radio, c'est un virus, mais vous connaissez déjà un peu tout ça. Hein. On m'avait dit, tu verras, en sortant du métro pour trouver Marine, tu prends à droite, puis à droite, puis à droite, puis encore à droite. Le problème avec ce genre de chemin, c'est qu'on se met rapidement à tourner en rond. Extrait de Voyage en Absurdie. Vous avez longtemps tourné en rond, Stéphane de Groot, et tout à coup, la révélation, les mots. Avec ce recueil de chroniques aussi, qui sera un carton, ce Voyage en Absurdie, un succès littéraire immense. Et pourtant, vous racontez avoir longtemps été fâché avec les mots.
Oui, ben je pense que c'était intéressant d'être fâché avec les mots, ça m'a permis de me réconcilier. Et ça a été une révélation pour moi de me dire que en fait tous ces ennemis en fait étaient mes amis et ils m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui, les mots.
Comment vous avez commencé à copiner avec eux?
Mais ils m'embêtaient beaucoup au début parce que je savais pas dans quel ordre les mettre. Je savais pas très bien à quel dessin les utiliser, je savais pas très bien oui, quoi en faire. J'étais embarrassé par pas mal de choses, en fait. Les mots, mon corps, qui était très gros. Du coup, j'ai fait des gros mots. Non, mais j'avais des gros mots, ça c'est sûr. Donc, je savais pas très bien où trouver ma place. Alors, soit j'allais me perdre complètement au milieu de rien, soit j'allais remettre un peu d'ordre dans tout ça, dans les mots, dans ma tête, dans mon corps, dans mes idées. Au début, c'était assez confus, quand même. Quand vous êtes très jeune et que vous voulez faire... des choses assez invraisemblables, on vous prend pas au sérieux tout de suite. Quand vous dites que vous voulez être pilote de course, comédien, à la limite cosmonaute, et que tous vos copains sont à l'école à suivre un parcours classique, et que vous déjà très tôt vous dites ça, on vous prend pour un doux rêveur. Alors soit vous restez un doux rêveur et vous restez dans un coin et c'est un peu un problème, soit vous prouvez à tout le monde qu'ils ont eu tort de ne pas vous croire. Et vous devenez pilote, vous devenez cosmonaute, vous devenez acteur.
comédien. Apprivoiser les mots, Stéphane de Groot, ça a été plutôt du coup un exercice de rigueur, une discipline que vous vous êtes infligé, ou au contraire, les mots sont venus remplir votre vie d'une autre manière? Vous diriez que c'est une immense liberté que ça vous a offert d'apprendre à les apprivoiser, ces mots?
Ça a été une deuxième peau. C'est-à-dire que au début, comment dirais-je, oui, c'est-à-dire que au début c'était tellement confus que je me suis dit le désordre dans lequel je vais mettre mes mots, le désordre dans lequel j'ai l'impression d'être installé dans ma vie, je vais l'assumer, ce désordre. Et effectivement, le fait d'écrire comme j'écris aujourd'hui, au début ne passait pas très très bien parce qu'on comprenait pas ce que je disais. Et puis j'ai assumé ça, j'ai assumé ce style-là. Et puis un jour, il y a une bonne fée qui s'est penchée sur moi et qui s'est dit, ben, avec ça, on peut en faire quelque chose. Heureusement, en fait, que je n'ai jamais changé de manière de faire. Parce que ce qui compte, à mon avis, dans ce métier, c'est la singularité, c'est la couleur qu'on offre, une couleur différente, une nuance différente. Je l'ai compris que très tard, ça. Il n'y avait pas beaucoup de rigueur non plus, parce que j'avais pas mal d'aptitudes naturellement, enfin je pouvais faire les choses naturellement, plutôt pas mal, dans différents domaines. J'avais pas beaucoup de rigueur de ce fait-là, ça venait assez vite. Mais j'allais jamais très très loin, j'allais quelque part mais pas très loin. Puis un jour j'ai appris, j'ai compris qu'il fallait beaucoup travailler en fait. Travailler son talent, travailler ses envies, travailler ses aspirations. Et c'est à partir du moment où j'ai vraiment travaillé, que le succès a commencé à frapper à ma porte.
Vous étiez un glandeur avant.
J'étais un glandeur, oui. J'avais la chance, effectivement, ou la malchance de me débrouiller
pas
mal.
La peur, peut-être.
Comment ?
La peur, peut-être, non ?
La peur, enfin, j'avais tellement envie d'aller décrocher la lune que la peur était très relative, en fait. J'ai eu peur après. J'ai jamais eu peur avant.
Ça peut être traumatisant d'avoir des rêves qui parfois semblent trop grands pour soi. Votre registre, Stéphane de Groot, les mots, votre univers, la dérision, tendre, séduire, en les détournant, en les tordant, en les découpant, ces mots, vous jonglez avec les syllabes, vous êtes un homme de calembour, toujours en décalage. Alors à la radio, sans transition mais avec transistor, ça aide pour l'audience, dites-vous, ça donne ça. Je m'appelle Martine, j'ai 82 ans et deux caniches, en plus d'avoir Alzheimer et deux caniches, mais j'ai encore une excellente mémoire pour une femme de 82 ans, donc de 2 ans qui doit s'occuper de caniche, mais moi j'y arrive pas à faire du Stéphane de Groot. Ou alors ça fait aussi Chantal. Faire Chantal est une expression peu usitée, voire pas du tout, mais que j'usite quand même quand je ne suis pas le genre de mec à usiter longtemps avant de me lancer. Et voilà qui vous rapproche quand même un peu tout ça, Stéphane de Groot, de Pierre Rep, un humoriste français un petit peu moins connu que ses pairs, des Proches et de Vos, mais qui a la bafouille facile, comme vous, parfois.
Je m'étais promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de La Tonfaine que tout le monde connaît, de Fatonlaine, de mon auteur favori, le corbard et le renou. Le rebeau, le barbeau, le cornard, le cornard. On se regarde. Alors. J'ai pas voulu. Je vais vous en dire une autre. Toujours de Tafon, toujours de du même auteur, le coche et Malouche.
Pierre Rep, un fin diseur, Stéphane de Groot.
Ah oui, je m'en lasse pas. En plus, c'est un exercice tellement compliqué. Mais à l'écouter, en fait, moi je pense que j'écrivais comme ça à la base. Lui, il en fait un sketch, mais moi je pense que j'écrivais comme ça au tout début.
Naturellement.
C'était même pas un exercice, ni une performance d'acteur ou d'humoriste. C'était un problème, moi.
Mais en même temps, de cet handicap, vous avez fait une chance quelque part. Vous avez construit quelque chose autour, un langage qui est bien à vous finalement.
Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais, que en fait, dans le domaine artistique, il faut venir avec son langage, sinon c'est pas intéressant d'évoluer là-dedans. Après, il faut le comprendre, il faut l'assumer, il faut le supporter. Ça aurait pu ne pas marcher pour les mêmes raisons. Il se fait que ça marche aujourd'hui pour ces raisons-là. Et je raconte, enfin, j'ai cette petite image, mais pour moi, mon langage, il me fait penser à un vase qui se serait brisé. Mais je savais pas trop quoi faire avec tous ces morceaux. Puis un jour, j'ai recollé ce vase. Alors, ça ressemble pas vraiment à un vase. En tout cas, c'est mon vase. Mais il fait office de récipient pour des fleurs ou pour autre chose. et l'eau ne fuite pas trop, donc ça va, il tient le coup ce vase. Mais effectivement, il ressemble à un drôle de vase, quoi.
Et il faut le remplir, effectivement, ce vase régulièrement. Les mots peuvent aussi venir, oui, peuvent venir à manquer, ces mots, hein. Angoisse de la page blanche, la panne d'inspiration. C'est un peu ce qui se passe dans tout ce que vous voulez, que vous jouez actuellement au théâtre, en duo avec Bérénice Bégeau, dramaturge à succès dans la pièce, qui n'arrive plus à écrire depuis qu'elle est heureuse. Grand malheur à elle et amoureuse. Elle va donc s'inventer des malheurs, aidée par son voisin, Thomas, c'est-à-dire par vous.
Vous êtes enseignante ?
Non.
Hein, je croyais.
Mais pourquoi ? Parce que je sais ce qu'est un adverbe.
Non, parce que vous prenez des bains à 4 heures d'après-midi. Qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas enseignante ?
J'écris.
À qui ?
Non, j'écris du théâtre.
C'est fou comme vous ressemblez à votre personnage. Lucie, dans Héritage. Froide et cassante.
Vous avez lu Héritage ?
Ah, froide et cassante, ça vous dérange pas. Mais que je puisse lire, alors ça...
Des fois, je rêve que je plaque tout. Que je m'engage pour une grande cause, que je m'occupe des autres. Des femmes battues ou des enfants abandonnés.
Oh non, ils ont déjà assez de problèmes comme ça, hein.
Comment ça, je ne sais pas, je ne vous plais pas ?
Ah oui, beaucoup, oui.
Bah, je vous plais, alors ?
Non, pas du tout.
Bah, comment ça, pas du tout ?
Si, j'imagine que vous pourriez me plaire.
Eh ben, imaginez-le !
D'accord.
Vous connaissez tout l'immeuble. Vous ne sauriez pas qui chante.
Très fort et très faux ?
Oui.
C'est moi.
Je crois que je vais arrêter d'écrire.
Vous savez faire autre chose ?
Non.
Ben, vous avez la réponse.
Alors, c'est le sujet de la pièce, Stéphane de Groot, cette complicité amicale, voire amoureuse, qui va se nouer entre les deux personnages de la pièce. Mais le fil conducteur, c'est cette question, jusqu'où peut-on aller pour trouver l'inspiration ? Et elle en fait des choses pour y parvenir. Vous, comment vous faites dans la presse, dans la rue, où vous trouvez votre inspiration ? Chez vos voisins ?
Au bout de moi-même, je cherche. Alors, assez curieusement, les idées me viennent dans ma douche. Et ça me vient dans la douche. Et je me dis, tiens, l'eau qui coule, l'eau qui est en mouvement, ça m'inspire des idées. En marchant, ça m'inspire des idées. Et en fait, c'est en étant mobile que les idées viennent.
Quand je m'assieds. Vous êtes mobile dans votre douche.
Comment ?
Non, vous êtes mobile dans votre douche.
Oui.
Expliquez-nous ça, c'est incroyable.
Mais quand je me savate, je suis en mouvement.
D'accord. Et vous prenez beaucoup de douches dans la journée,
oui, j'aime
du coup,
bien.
À 4 heures de l'après-midi
mais
aussi
je vous
parfois.
Assure qu'il m'est arrivé de prendre des douches l'après-midi pour chercher et trouver des idées.
Pour garder la tête froide, en fait.
Pour garder la tête froide, exactement. Mmh. Et non, c'est vrai, en marchant, en roulant, en voiture, je ne parviens pas à trouver d'idées quand je suis assis devant mon ordinateur ou quand je suis immobile à réfléchir. Quand je réfléchis, je ne pense
ça
pas.
Ça vient pas.
Oui.
Mais donc les idées, elles tournent en boucle dans votre tête et il suffit d'aller les chercher. C'est pas en regardant des choses, en constatant certaines situations.
Non,
elles
c'est
n'est-ce
vraiment
pas d'une révolte ou de...
Non,
elles viennent de vous.
C'est vraiment en mouvement. Et oui, ça vient de moi parce que... Et du coup, je me plante très souvent à ce niveau-là, mais j'ai pas beaucoup de bagages en fait. J'ai rempli vraiment ma valise au fil du temps. Mais j'avais pas beaucoup de mal de voyage rempli de ni de souvenirs ni de culture ni d'informations particulières. Comme j'étais un cancre fameux à l'école, j'ai une matière très relative et c'est vraiment en faisant les choses que j'apprends les choses. C'est pour ça que je parlais d'instinct tout à l'heure et de je ne sais plus quoi, mais c'est
de désir, d'envie.
Et non, mais tout comme pour la série, par exemple, j'ai pas regardé les épisodes précédents. Tout comme pour les auteurs de théâtre, je me nourris pas trop des autres. J'aime bien arriver vierge à une situation particulière, dans une situation, dans un contexte, pour pouvoir le créer à ma manière. J'aime beaucoup ça. À un moment donné, mes parents rêvaient, enfin, ambitionnaient pour moi que je fasse l'université. Je craignais de le faire, de peur de rentrer dans des rails et qu'on m'apprenne des choses qui auraient pu me dévier de ma pensée.
Oui, vous avez 50 berges aujourd'hui, ces vieux complexes, on peut aussi s'en débarrasser, non ?
Mais c'est même pas des complexes. C'est devenu autre chose qu'un complexe. C'est devenu une force. Je le revendique, ça. Ce non-savoir et cette application à devenir en faisant.
Stéphane de Groot est notre invité aujourd'hui. Alors, pour cette pièce, tout ce que vous voulez, qui se joue encore un tout petit peu au théâtre, mais également pour Kaboul Kitchen, la troisième saison de cette série Création de Canal+, qui a débuté hier soir sur vos télés. À midi, on m'a dit que donc le comédien était notre invité et qu'Albin de la Simone a envie de chanter.
Tu es un leurre, une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bats les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose, tu vas te casser quelque chose sur moi. Viens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir. J'ai appris tout seul sur le tard et sur le tas à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille et en chaussons.
Dans l'actualité musicale, dans un autre registre, Albin de la Simone, qui se voyait musicien de jazz avant de se découvrir chanteur, en français, dans le texte. Il joue avec les notes, il joue avec les mots, lui aussi, extrait de son nouvel album, L'un de nous. C'est doux, même si, comme avec vous, Stéphane de Groot, on ne comprend pas toujours tout. À midi, on m'a dit, c'est le titre de cette chanson. À midi, lui, espérons qu'il n'a pas changé d'avis. Stéphane de Groot est notre invité ce mardi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Alors comme lui, comme Albin de la Simone, vous avez aussi appris certaines choses sur le tard. Vous avez aussi découvert que vous étiez impatient, boulémique, d'envie, de désir, qu'il fallait cultiver sa différence. Aujourd'hui, vous êtes dans une troisième saison de cette série culte de Canal, Kaboul Kitchen. Petite question avant d'entrer dans le vif et dans le dur du sujet. En pensant à l'une de vos dernières chroniques sur Canal+, c'était en juin 2013, vous disiez « J'espère que vous ne serez pas amer, Michel ». Alors, moi j'ai mis un peu de temps à comprendre le jeu de mots. Ce que tout le monde disait, « J'espère que vous ne serez pas amer, Michel », non pas d'avoir perdu son chat, donc, mais d'entendre que l'émission qu'il a longtemps portée, Michel Denisot, est supprimée. Stéphane de Groot, la direction de Canal, a en effet décidé d'arrêter le Grand Journal, émission mythique de la chaîne après les années nulle part ailleurs. Vous n'y avez pas fait vos débuts, vous étiez au supplément de Canal+, vous avez été aussi à France Inter au même moment comme chroniqueur. Est-ce qu'il est normal pour vous que des pages se tournent? À un moment, il faut aussi accepter ça.
Mais je trouve que ça fait un moment que la page se tournait petit à petit dans cette émission. Là, c'est plus la page, c'est carrément le bouquin
qui se referme,
qui va au pion. Moi, je pense que ce type d'émissions sont incarnées. Ce sont des incarnations importantes à travers des gens comme Denisot, qui était l'incarnation du Grand Journal, comme l'était de Chavannes pour Ciel Montmardier, comme les... Elle était même pour nulle part ailleurs Gildas. Je pense que c'était une erreur de poursuivre le Grand Journal avec d'autres personnes et avec ce même nom. Voilà, les gens s'en vont avec leur format et avec leur concept.
Il faut se dire la même chose de l'esprit canal que vous avez incarné avec beaucoup d'autres à un moment donné.
Alors on a dit qu'il y avait un esprit canal, puis d'autres ont dit mais il n'y a pas d'esprit canal, ça ne veut rien dire d'avoir un esprit canal. Moi je pense qu'il y avait un esprit canal, oui. Et d'ailleurs quand on voit aujourd'hui les dommages qui sont causés à cette chaîne, parce que malgré tout je trouve qu'il y a des choses dommageables, c'était quand même un terrain de jeu assez formidable pour des gens qui venaient de nulle part, pour aller quelque part, qui se révélaient, qui avaient le temps de se révéler. Il y avait un espace de création assez singulier. Il y a beaucoup de gens qui ont été remarqués sur Canal. On peut faire la liste, elle est importante. Donc pour moi, du coup, effectivement, il y avait un esprit canal. En tout cas, il y avait un esprit, une certaine forme de liberté et surtout du temps pour pouvoir grandir, pousser, montrer qui on était. Du temps pour se planter, pour se relever. Ce qui est important, je trouve, dans ce métier. C'est important de pouvoir se planter, de comprendre, d'aménager et puis petit à petit de se polir, de se parfaire. Aujourd'hui, on n'a plus le temps ailleurs que là. On avait le temps là. Voilà. Donc il y a un esprit qui s'est dissipé, qui s'est envolé.
Esprit canal qui s'est peut-être perdu dans ses émissions, mais qui perdure dans ses séries, dans ses fictions et dans ses créations. Écoutez.
Amanoula, Habib et un nouveau venu très connu.
Bonjour.
Salam, salam. Où tu vas ?
Ben à Kaboul.
Kaboul. Monte, fils de la chèvre.
Fils de ?
La chèvre, monte.
Pourquoi la chèvre ?
C'est une expression locale.
Bosh. Monte.
Il faut que d'abord que je récupère mon sac.
Allez, je... Dans cette nouvelle saison de Kaboul Kitchen, on retrouve Victor, Axel, Lala, Damien et Sophie, la fille de Jackie. Jackie, c'est le patron du bar à Kaboul où tout le monde se réunit, les expats en premier lieu, incarné dans les deux précédentes saisons par Gilbert Melki, qui a lâché la série Maison. Qui pour le remplacer ? Eh bien vous, donc justement, Stéphane de Groot, enfin Michel Collincourt, nouvel épicentre de la série. Une gentille crapule, un égoïste opportuniste séduisant, on peut le définir comme ça ?
Oui, notamment, et on peut rajouter plein d'autres choses. Lui-même se rajoute des attributs, des artifices en fonction des situations qu'il rencontre. Et c'est ça l'intérêt de ce personnage, c'est que c'est un caméléon. Il va épouser la couleur qu'il faut à un moment donné pour se fondre dans le paysage. On ne sait pas très bien si c'est un gentil méchant ou un méchant gentil. C'était tout l'intérêt aussi d'incarner ce personnage qui est riche de mille facettes et de mille couleurs. J'ai adoré, moi, endosser ce costume.
Comédien téméraire, parti en Afghanistan, tourné Stéphane de Groot, pas du tout. La série, en fait, elle a été tournée tranquillement au sud de Casablanca, au Maroc. On imagine que vous avez logé dans un joli riad. Quelle arnaque ! Ça s'est passé comment, ce tournage ?
Non mais tout ce métier n'est qu'une arnaque. On meurt pas vraiment, hein, vous savez.
C'est vrai ? Comment s'est passé le tournage ?
Mais ça ne peut que bien se passer quand vous partez 3 mois au soleil, effectivement... dans des endroits confortables avec une équipe comme celle-là et un personnage aussi haut en couleur qu'il faut colorer tous les jours. Non, c'était un beau cadeau de la part de la chaîne de m'offrir ça. Et puis l'exercice de la série dans ce contexte-là, je ne l'avais pas vraiment pratiqué. Vous pouvez effectivement développer un personnage, le faire grandir, le faire évoluer. Et puis j'avais surtout le privilège d'être confronté à des gens comme Simon Abkarian, qui sont quand même des acteurs géniaux. C'est très con de le dire, mais parce que c'est rare en fait dans ce métier d'avoir des gens généreux qui vous regardent, qui vous écoutent et avec qui vous pouvez vraiment jouer. Mais jouer, quand vous jouez, vous avez un partenaire, quand vous jouez au Monopoly ou quand vous jouez au tennis, vous avez quelqu'un en face qui vous renvoie la balle, il est concerné. Mais au cinéma, au théâtre, à la télévision, on recherche ça aussi. Mais on ne le trouve pas toujours. Donc la notion de jeu est très relative. Et ici avec Simon, j'ai trouvé ça. Et du coup, comme on a joué, ben on s'est beaucoup amusé, comme deux enfants. Et quand je dis deux, on a formé un seul couple. On a formé vraiment un duo avec une complémentarité, l'Auguste et le clown blanc. Et je pense que cette saison-ci est une saison plus chorale. Où il n'y a pas d'individualité, mais il y a vraiment des groupes. Et à travers ce Michel Collincourt, il y a aussi un trait d'union entre les différents personnages. Et du coup, les seconds rôles émergent davantage. Et du coup, on voit apparaître aussi des gens comme des actrices comme Natasha Linninger, qui vient faire un guest, mais qui crève l'écran parce qu'elle est très drôle, elle est excellente. Et puis tous ces gens qui font partie déjà de la série, que ce soit Mark City, Karina Testa, Stéphanie Pasterkamp, Benjamin Bellecourt, Alexis Michalik, tous ces acteurs, tous ces personnages ont un rôle plus important. Mais c'est pas pour ça que les rôles principaux disparaissent. Ça devient vraiment un film choral.
Et dans Kabul Kitchen, Simon Abkarian, c'est presque un rival pour vous. Hein. Il vous pique votre parler n'importe la wak, comme on disait vous et moi quand on avait 15 ans. Tu crois que je n'entends pas ton ton sarcasmique? Il inverse les syllabes, il inverse les mots un peu oui. À la manière de Stéphane de Groot. Il est le colonel Amanoula, chef de guerre qui, à la manière de Mandela, ressort en homme nouveau de sa prison. Il a beaucoup lu, dont de mémoire une bio de Lady Di. Il entend donner un nouveau sens à sa vie. Il veut devenir président.
Lui, c'est le colonel Amanoula, la panthère du Logar.
Qui est cet homme? Non, appelez-moi un peu mon ami Jackie.
Croyez-moi, colonel, vous voulez pas savoir.
Et lui, c'est Michel, le petit nouveau.
En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous êtes quelqu'un de bien.
Leur point commun, ils sortent tout juste de prison et vont tout mettre en œuvre pour se refaire.
Vous avez devant vous le futur président de l'Afghanistan. Il faut leur montrer le nouvel Amanoula. Il faut communiquer.
Communiquer quoi? Comment vous voulez le rendre sympa?
Mon fils a roulé.
Et si le colonel brûlait 500 kilos d'opium devant les caméras?
De qui se moque-t-on réellement dans cette série, Stéphane de Groot?
De nous-mêmes. C'est ça qui fonctionne. C'est que par exemple, Michel Collincourt, il a beaucoup d'autodérision. Il se rend bien compte qu'il est ridicule, qu'il est foireux et qu'il peut être perçu aux yeux des autres comme un type déglingué. Mais c'est tout le pari, c'est ça, c'est de faire croire, de tenter d'offrir une autre image.
Avec lui, en tout cas avec Michel Collincourt, on apprend qu'il y a certains sourires dont il faut se méfier. Vous le disiez, il a l'air gentil, mais il peut faire beaucoup plus d'entourloupes qu'il en a l'air. Vous, dans ce métier, ce petit monde plein de faux-semblants, vous avez appris avec les années à les repérer, ces faux sourires, des vrais sourires, vous avez appris
oui.
À les distinguer.
Et d'ailleurs, si le succès frappe à ma porte aujourd'hui, je trouve ça plus raisonnable parce qu'effectivement, on les voit, ces faux sourires. On les voit, ces faux compliments. Et donc, on est le roi que d'un palais de pacotille. Quand ça vous arrive à 20 ans, on a vraiment l'impression d'être le roi du monde. Ici, on est juste le roi de sa chambre ou d'un studio à l'espace d'un instant. Donc voilà, tout va bien. Mais effectivement, il faut relativiser tout ça. Tous ces sourires, il y en a beaucoup, ces sourires, ces faux sourires.
Alors, la compétition, est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est votre carburant? Vous êtes un ancien pilote de course, Stéphane de Groot, ça c'est votre côté Belmondo, plutôt que Paul le fils, hein, que Jean-Paul le père. Un peu aussi comme Jean-Louis Trintignant, qui était pilote de fiction dans Un homme et une femme de Claude Lelouch. Vous y serez d'ailleurs dans le prochain film de Claude Lelouch, qui a tourné avec les plus grands acteurs français, passionné lui aussi de compétition sportive. Être dirigé d'une main de maître, pour un comédien, ça change tout, et on terminera là-dessus.
Alors j'aime bien cette formule, être dirigé d'une main de maître, parce que Lelouch c'est vraiment un cinéaste amoureux de la vie, amoureux du cinéma. Il a fait je ne sais pas combien de films, il a fait d'excellents films, il a fait de moins bons films, mais ça reste Claude Lelouch, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait. Et donc moi le fait d'entendre moteur, action de la part de Claude Lelouch, c'était un rêve d'enfant. Il aurait pu me demander de porter un câble, c'était pareil. Donc j'étais très fier, très heureux de tourner avec lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, il y a une distribution de dingue, et oui, c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalisait.
Et ce sera la mi-mars au cinéma, moteur, vous allez le dire bientôt, vous aussi, parce qu'après deux courts-métrages hein, produits par Danny Boone, vous vous lancez apparemment, vous êtes en train d'écrire votre long-métrage.
J'écris mon long-métrage, là je réalise un court-métrage pour les talents d'amis de Cannes, et oui, il y a pas mal de projets. Il y a un film aussi qui va sortir avec Louise Bourgoin, un film de Bruno Schisch. Là, prochainement, il y a Corporate, de Nicolas Sieul, avec Céline Sallette et Lambert Wilson.
Mais vous ne vous arrêtez pas. Essayez de ne pas vous
c'est
perdre
pas le but.
Quand même. D'accord. Pas ce soir. Lundi prochain, en attendant, trois nouveaux épisodes diffusés lundi prochain à 20h de cette série Kabul Kitchen sur Canal. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de la série sur le site de la chaîne. Et puis, on peut vous voir encore deux soirs au théâtre.
Jusqu'à jeudi,
avec trois. Ça fait trois avec Bérénice Béjot, puisque nous sommes que mardi.
Et on sera en tournée en janvier 2018.
Dans toute la France.
Voilà.
Merci beaucoup,
Stéphane. Merci à vous. Merci. Très agréable.